Bonsoir à vous, c'est bien Supersonic. Il était deux fois, puis il était une fois. C'est l'histoire d'un duo, quoi. Autrement dit, 1 plus 1 égale 3. C'est l'histoire de Joëlle Léandre, fantastique contrebassiste, voyageuse avec son instrument, mais voyageuse de son instrument aussi, le connaissant évidemment sur le bout des doigts et de l'archet. C'est l'histoire de Serge Tessoguet, guitariste, multifacette, cofondateur du groupe Noir Désir, bien sûr, mais aussi de plein d'autres projets, Interzone, avec l'oudiste Raled Al-Jaramani, ou Zone Libre, avec lequel il s'est rapproché de la rappeuse Kazé et du rappeur Amé, entre autres. Voyageur multiple, lui aussi, Serge Tessoguet. C'est l'histoire de l'une et de l'autre, et du duo qu'ils forment, Trans. T-R-A-N-S, c'est le nom de ce duo. Joëlle Léandre et Serge Tessoguet sont dans Supersonic, avec vous, avec nous. Salut les androïdes. Bonjour Joëlle Léandre, bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. On est chez vous, là.
Oui, à Montmartre.
À Montmartre, sur la colline. Vous nous invitez, alors qu'il y a déjà un invité autour de la table, c'est Serge Tessoguet, bonsoir.
Bonsoir.
On est avec vous, là, pour parler de plein de choses. On va pouvoir parler de plein de choses. Et l'occasion qui nous est donnée, elle nous est donnée par un disque qui est sorti il y a quelques mois, qui fait l'objet de temps en temps de concerts, duo, votre duo. Ça s'appelle Trans 2. Deux, parce qu'il y a eu un premier Trans qui était sorti sur le label Intervalle Triton. Et donc voilà l'occasion pour parler. Donc on est chez vous, Joëlle Léandre.
Oui.
Et enregistrer chez vous, c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, je veux dire, de la musique.
Ah oui, plusieurs fois. De la musique, l'interview, puis le travail quotidien personnel, mmh. Travailler sans instrument, il y a toujours de la musique. C'est un appartement de musicien.
Oui, oui, oui. Enfin, je ne sais pas si tous les musiciens enregistrent dans leur cuisine. J'ai lu que vous avez enregistré avec Noël Achoté, par exemple.
Noël Achoté et puis aussi John Rose. Mm-hmm. On avait fait un LP, on ne trouve pas, c'est bon, qui s'appelait Les Domestiques. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on avait ri. Les Domestiques, oui. On avait pris tout ce qui était sonore de la maison. Les portes qui claquent, les seaux sur le lit, l'eau qui coule, les cuillères. Et puis ça faisait partie. Donc, il est violoncelliste et violoniste, si je voulais deux. Mm-hmm. John, il vit en Australie. Bon, on avait enregistré, effectivement, dans la maison.
Et avec la maison, alors ?
Et avec la maison, complètement.
Et j'ai lu aussi qu'il y avait une pièce que John Cage avait écrite pour vous, que vous avez créé dans l'appartement de Duchamp.
Bah, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de ça, on peut parler de ça, mais rapidement. Non, là, Cage, je le connais depuis très 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 longtemps, ouais. 1972 ou 13. Je le rencontre aux États-Unis, mais je le joue aussi, parce que je faisais partie d'ensemble. Puis plus tard, on est restés amis. Plus tard, j'ai travaillé avec lui aussi, composition, sa pensée, tout ça. Puis plus tard, il m'a dédié une musique pour contrebasse et ensemble, un petit ensemble, qui s'appelle Ryonji. Et la pièce a été pensée un été. A été pensé à Neuilly, dans l'appartement de Marcel Duchamp. Il y avait une soirée la veille ou quoi, et puis connaissant John Cage, il dit « John, est-ce que tu as écrit pour cet instrument ?» Parce qu'on n'écrit pas pour la contrebasse, je sais pas, c'est un instrument qui fait peur ou ça reste au fond. Et il riait tout le temps, Cage. Je me dis « Non !» Il riait, ça, il se fendait la malle. Et je dis « Moi, j'aimerais bien que tu m'écrives une pièce. » Il dit « Yes !» Et puis il m'avait donné cette adresse à Neuilly. Pour lui, dont la pièce a été pensée, il faisait une petite cuisine, on a mangé en tête à tête, il dit voilà, j'entends une chose. Et c'était cette série de Ryonji. Elle a été pensée dans l'appartement de Marcel Duchamp, ce qui n'est pas rien non plus.
Oui, c'est dans la série Généalogie intéressante. Mais ça veut dire aussi que le lieu, forcément, influe, pas forcément jusqu'à aller jouer avec le son des portes qui claquent, mais le lieu influe sur la manière de jouer.
Sûrement, oui. Mais enfin, on est plutôt avec Serge à jouer, à donner des concerts, à enregistrer en live ou alors en studio. Mm-hmm. C'est pas commun d'enregistrer dans un appartement.
Alors ça, c'est pour l'appartement, mais le live, Serge Tessoguet, puisque les deux trans sont deux aventures de live avant toute chose, oui. En premier lieu. Mm-hmm. Y a le fait de se rencontrer à deux sur la scène, et puis il y a le lieu même qui joue, le lieu, les gens.
Pas tant que ça, en fait. Je trouve pas. C'est plutôt interaction entre nous, principalement, mm-hmm. dire, entre mm-hmm. Joël et moi. Ouais, ouais.
Mais alors, le premier face-à-face, c'était à quelle occasion ?
C'était.
C'est Serge qui doit parler.
C'était à l'occasion d'un concert de soutien au Journal de l'Humanité. Et en fait, on était plein d'artistes, genre une cinquantaine, je sais mm-hmm. pas, un truc comme ça. Et puis, moi, j'avais très, très envie de jouer, rencontrer Joël. Voilà. Et donc, ça s'est fait, ce soir-là. Mmh. On a joué même pas 10 minutes. C'était vraiment très, très court. C'était histoire d'être présent. Je me rappelle qu'on s'est dit bonjour sur scène.
Voilà, c'est vraiment une rencontre sur scène.
Ouais,
c'était très... Moi, j'étais évidemment très impressionné de rencontrer Joël. Et le lendemain, il se trouve qu'on était tous les deux... dans un autre concert de soutien. Mais vraiment, c'était assez marrant. C'était vraiment coup sur coup. C'était le festival Jazz Nomade, festival de Blaise Merlin. C'était au point éphémère.
Voilà, au point éphémère.
Voilà. Mmh. Et puis Joël me dit, je fais un solo demain, rejoins-moi à la fin du solo. Et moi, je dis, oui, forcément, j'avais envie de continuer, poursuivre. Et puis, il s'est vraiment passé quelque chose à ce moment-là. Le deuxième soir. C'était... Le premier soir, on ne peut pas dire, c'était par politesse, bonjour, claque, machin. Rien d'incroyable, enfin voilà. Mais le lendemain, on sait quand on a joué quelque chose, il s'est passé quelque chose. Mm-hmm. Et là, il s'est passé quelque chose ce soir-là. Et puis Joël m'a dit tiens, il faudrait qu'on se rappelle pour organiser un travail un peu plus approfondi, ce serait bien qu'on joue. Et puis, je n'ai pas osé la rappeler, à vrai dire, parce que je me suis dit, Joël, elle est partie tout le temps sur les routes dans le monde entier et qu'elle avait autre chose à foutre que de jouer avec un petit guitariste de rock, là. Voilà. Non, mais vraiment, je pensais comme ça.
Fou.
Et puis, un jour, elle m'appelle, elle me dit, mais alors, on fait quoi ? Et j'étais vraiment... Non, mais j'étais étonné.
Au pied du mur, alors, cette fois.
Ouais, et puis il se trouvait... C'est vraiment des successions d'événements comme ça. J'avais quelqu'un qui m'avait abordé, qui m'avait proposé une semaine de résidence dans un lieu sur Paris, avec au final un concert. Et du coup, j'avais pas structuré ce que j'allais faire. Et il s'est trouvé que j'ai dit à Joël, j'ai cette opportunité, qu'est-ce que t'en penses ? C'est genre dans un mois, enfin c'était assez près dans mm-hmm. le temps. Donc à ce moment-là, on s'est rencontrés, on a passé 5 jours, à raison de quoi, 2-3 heures par jour, à discuter musicalement, c'est-à-dire à
improviser, voilà. À noter, à mémoriser des choses, à se faire plaisir, à enregistrer. Je me rappelle que tu avais posé ton Mac, on a tout enregistré.
On a enregistré le concert, qui est le premier trans, en mm-hmm. fait, c'est notre premier mm-hmm. concert. Et donc, c'est le résultat de cette rencontre et après, qui n'a fait que évoluer exclusivement que sur scène. On n'a jamais retravaillé en dehors des concerts. Voilà. depuis 2011, je pense, ouais, c'est ça.
Joël Léandre, la première envie justement, le fait d'insister auprès du timide Serge Tessoguet qui n'osait pas vous rappeler, c'était quoi votre idée?
Timide, non, je sais pas, mais j'aime pas les hiérarchies et tout ce que le monde en général, donc c'est une attitude que j'ai qui est sûrement politique ou je ne sais, polémiste aussi. Qui fait que je vois pas pourquoi, quel est ça, ça c'est rock, ça c'est jazz, ça c'est baroque du 16e, ça c'est du 17e, ça c'est new, ça c'est free new, ça c'est free jazz, new, free rock, new. Non, on peut rire, bien sûr qu'il y a tout ça, mais c'est pas l'aventure du musicien. Le musicien, il est créatif, il a envie de voyager. D'ailleurs, le son, je sais plus ce que c'est que le son, c'est du voyage. Donc, je suis déjà à la base, je suis une vraie nomade, donc j'ai rencontré beaucoup de musiciens, certains comme Serge, mais beaucoup sont venus vers moi, qui avaient le désir de travailler avec moi, même des Afro-Américains ou qui sont venus, voilà. Et il faut toujours être prêt. Ce que j'aime, c'est cette aventure du risque. Mm-hmm. Quand on connaît son outil, moi je connais beaucoup mon outil. J'ai travaillé cette basse tellement de longues années, et puis je commence à avoir un certain âge, je ne vais pas oser le dire au micro. Donc c'est l'aventure du musicien. S'il connaît son outil, époque du musicien, s'il aime son histoire, il peut parler, il peut prendre la parole. Mm-hmm. Donc chez moi, il n'y a pas de hiérarchie. Si demain dans la rue, je rencontre un Tibétain qui fait avec une flûte, qui me dit oh, vous savez, j'ai un projet, dans 15 jours, on part, je dis oui.
Comment vous faites pour être prête?
Ben, je viens de vous le dire, on est prêt avec son outil.
Non, être libre avec l'outil, c'est une chose, mais ben, c'est
on
une
est prêt aussi c'est du nomadisme,
ouais.
Du grand nomadisme. Et c'est pas que le nomadisme d'être assis dans un train. Hein, ce sont des plis, des déplis, ce sont des. Voilà, on va pas nommer qui, on sait de qui on parle. C'est du vrai, du pur nomadisme. Donc, quand il faut être prêt à ne pas être prêt. Mm-hmm. C'est ça, parce que c'est le sujet, la seule musique qui reste, c'est le sujet de l'improvisation, où on peut tous et toutes. Parce qu'il n'y a pas d'hiérarchie, il n'y a pas de genre aussi, il n'y a pas de homme ni femme. Mm-hmm. Donc c'est une musique qui m'a rapidement, c'est pas intéressé, m'a questionné. D'ailleurs, elle continue à me questionner. Donc il faut être prêt d'échanger, d'aller vers l'autre. Parce qu'échanger, aller vers l'autre, c'est apprendre un peu de soi. C'est déjà une petite parcelle de soi. Donc j'avais peut-être déjà une parcelle de rock en moi ou de punk, comme un jour tu m'as dit, t'es plus punk que tous les punks. Un jour tu m'as dit, c'était en Suisse, je crois. Après, ce sont les autres qui cataloguent, qui veulent des certitudes. Mmh. La seule certitude que j'aurais, c'est que je suis contrebassiste et que cette aventure du voyage et même des fois du ratage. pas l'échec, mais du ratage, ce qui fait partie aussi. Mais on n'arrête pas de rater toute la journée. Si on savait tout du matin au soir, mais quel ennui ! Non, c'est vivre. On parle de vie, là. Et puis, il faut aimer.
L'enjeu, c'est rater mieux.
Voilà, l'enjeu, c'est rater mieux. Oui, mais c'est Beckett qui dit ça. Rater, rater. Rater encore, rater, je ne sais plus comment il disait. Mais on parle de la vie. Mm-hmm. On parle de la vie, du quotidien aussi, dans la rue, du day life, comme on dit. Mais il faut être prêt. Tant pis s'il y a des rugosités à soi de rentrer chez soi, puis réfléchir. Voilà. Mais surtout pas ces chapelles. J'ai tellement souffert de ces chapelles, puisque je viens du classique, j'étais vers le contemporain, je suis une enfant du free jazz, j'ai rencontré tous les blacks, et vraiment, non, des moindres qui sont même voulu travailler avec moi, puis des jeunes, puis, et c'est, je dirais peut-être, c'est facile chez moi, parce que j'aime ça. Donc, j'ai pas de problème.
Aller contre les étiquettes, je pense que ça vous va bien, Serge Tessoguet, non ? Chercher ce cloisonnement.
Moi, je cherche aussi, je sais pas quoi. Donc, c'est quand je le trouve que je me dis tiens, c'était ça que je cherchais. Mais effectivement, c'est cette envie de trouver des choses nouvelles. Donc, il y a ça d'une part. Ça veut dire connaître bien son instrument, ce qui est pas mon cas. Par contre, j'aime vraiment bien mon instrument. Et je le connais assez mal.
Dans quel sens ?
Comme je fais tout à l'oreille, j'ai pas de connaissances classiques, on va dire. Je lis pas les partitions et tout ça, j'ai arrêté depuis que je suis gamin, finalement. Ouais. Et du coup, je suis laborieux, en fait. Faut que je travaille tout le temps, je cherche en permanence. Et alors, bien sûr, je peux identifier des gammes, des choses comme ça, mais ça me convient pas non plus. Parce que, suivant mon humeur, ça me va plus. Donc, alors, si moi je change d'humeur, 10 minutes plus tard, je reviens et je réessaye la même chose et je me dis, mais non, mais c'est pas ça. Donc, en fait, je peux pas avoir de savoir, sur lequel je peux compter vraiment fixe. Mmh. Voilà. Et tant mieux, quelque part. C'est comme la vie est foutue, les journées sont chaotiques, et la musique finalement, elle est aussi. C'est-à-dire que quand j'ai accepté ça, déjà c'était plus facile à vivre ces moments de recherche musicale. Et puis, cette notion de liberté que j'essaie d'approfondir toujours, elle va aussi avec cette recherche de travailler hors tonalité, mais en même temps de raconter quelque chose, c'est-à-dire sans faire n'importe quoi non plus. Et ça, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. J'ai appris beaucoup au contact de Joël, de façon informelle, parce qu'on parle pas, finalement, de comment tu fais, comment tout ça. On parle pas de ça, et ça n'a pas d'intérêt, en fait. On est juste ensemble, et on vit des moments ensemble. Et ça suffit, en soi-même. Mais par contre, d'avoir plus de liberté sur l'instrument, ça veut dire avoir plus de connaissances. Donc, c'est des connaissances plus complexes, des rouages plus complexes. Mais comme je peux pas me reposer dessus non plus, donc c'est un bazar permanent, en fait. Donc, comme on dit, ouais, je rate tout le temps. J'ai le sentiment de rater tout le temps. Il y a des rares fois où je me dis, ah, c'était super, mais je sais même pas ce que j'ai fait parce que, voilà, c'est sur le moment. Alors, et puis, j'ai pas envie de le reproduire parce que c'était spontané, c'est ça qui m'intéresse. Donc petit à petit, j'apprends toujours quelque chose de en plus chaque jour qui passe. Et puis des fois, j'en oublie d'autres. Enfin voilà, c'est un bazar en tout cas. Mais j'ai le sentiment de découvrir des choses nouvelles, en tout cas. Faire ce qu'on fait sur scène si on jouait dans une pièce comme ça tranquillement tous les deux, parce que il y a un engagement physique sur l'instrument qui est super important de la part de Joël et de ma part aussi. Je sais pas jouer autrement, sinon j'arrive pas à sortir des sons qui m'intéressent. Je trouve ça non vivant, sinon voilà. Pour qu'ils soient en vie, faut qu'il y ait une implication physique et émotionnelle, et du coup ça se fait au contact des gens, en fait. Et donc ça veut dire que c'est vrai que c'est pas... Quand on joue, plus on joue, plus on découvre, en fait. Mais ça se fait en concert.
C'est quoi votre rapport sur scène ? C'est-à-dire, Il y a le soutien de l'un à l'autre, il y a une course, il y a
une pièce.
Non, c'est l'écoute, l'improvisation. Je dis dans le travail, il faut que tu dises, Serge, c'est que dans la semaine où on a, il y a de ça 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, où on a fait cette,
résidence.
On a noté quelque part, il y a des thèmes maintenant, il y a des savoirs qu'on décidait tous les deux. Donc du premier même au deuxième disque, on retrouve, moi j'appelle ça des pièces, comme des petites compositions spontanées, deux on peut prétendre, même si ça bouge un peu. Mais il y a cette aventure, c'est une attitude d'écoute et de risque et de jubilation, c'est ce qu'on oublie de dire, de grande jubilation. Et tant pis, ça dit des ratages, oui, mais c'est pas l'œuvre. L'œuvre, c'est pour être rejoué.
Mais c'est drôle que vous insistiez sur les ratages, parce que...
Non, parce que l'œuvre, il faut le dire quand même, on est entouré que de ça. Hein, Là, c'est pas le sujet. L'improvisation, c'est pour pas être rejoué. On peut pas rejouer, ça fout le camp, ça revient jamais. Il n'empêche qu'on arrive avec l'expérience et surtout rejouer avec le même musicien, ou les, de toute façon, l'improvisation, il faut pas être nombreux, deux, trois, se créer un vocabulaire. C'est l'histoire de vocabulaire, parce que c'est la connaissance de l'autre. On connaît ses tics, ses non-tics, ses respirations, ses phrasologies, on connaît à force de jouer. La partition, c'est l'autre. C'est comme si la partition, telle qu'on entend, c'est cette partition humaine. Et c'est de grandes joies. Une grande, grande joie. Donc, il n'y a pas de sujet de « Tiens, comment on va faire ? On fait un long soundcheck, une balance. » Et puis, on se jette un peu un mare au canard. On fait un mare au son.
À quel moment on se dit il y a de quoi faire un disque, parce que justement vous dites c'est le moment à vivre, ce qu'on entend complètement dans l'idée de l'improvisation, et puis à un moment donné il y a un support qui arrive.
Un support parce que on va parler théorie, alors c'est théorie. Dès qu'il y a dès qu'on émet un son, il y a un sujet compositionnel. On ne peut pas jouer 56 minutes non-stop. C'est comme la vie, il y a un pool, on va du lent, on se met à courir parce qu'il y a un point, parce que peut-être on a oublié ses clés de garage. Après, il y a un moment relax, on appelle ça tension and release, on dit en anglais. C'est de la vie. Donc on sait qu'une pièce, quand on improvise, c'est entre 0 à 5 et 8 minutes. À peu près. Ça, on le sait. On l'acquiert à force de le jouer. Donc, on parle. Et puis, il y a des caractères de pièces. Vous voyez, vite, on parle composition, d'une certaine manière. Des caractères de mise en son. Comme l'homme qui est. Il y a des choses lentes, il y a des choses lourdes, il y a des choses joyeuses, il y a des choses tristes, il y a des choses techniques, il y a des choses véloces, il y a des choses en interaction, il y a des choses. Et c'est partout pareil. C'est toujours ça. Donc, à un moment, si on parle. Parce que là, il faut vraiment parler du sujet de l'improvisation. C'est une chose qui est comme boire et manger, c'est une musique naturelle. Improviser, c'est naturel. On improvise tous, avec instrument ou pas instrument, ou dans votre cuisine, ou en faisant un gâteau, une, je sais pas quoi, compote d'orange. Il y a une part, heureusement qu'il y a une part improvisée. Mais il y a un savoir, parce que faire la compote, il vaut mieux mettre quand même un peu de sucre, sinon il y a un peu des, pas des lois, mais des savoirs comme ça, je dirais universels.
Oui, vaut mieux connaître la pomme avant de commencer à faire de la compote.
Voilà, et puis on peut enlever les points, là, sinon enlever le truc au milieu. Là. C'est des savoirs, donc c'est un savoir instrumental. C'est pour ça que je reviens que si on connaît bien son outil, on peut causer. Mais c'est une histoire de culture. Hein. Au plus on a la culture, au plus on a du verbe. Hein. Si on n'a pas de culture, ça va au-delà de la musique. Hein. C'est ce qui se passe là, c'est la politique, c'est écouter les infos, c'est lire un peu la poésie, la littérature, qu'est-ce qui se dit, aller au théâtre ou se balader, rien faire, écouter un oiseau. C'est de la vie, constamment, mais c'est de la culture. Et chez nous, c'est pareil, la culture, c'est écouter d'autres musiciens, c'est être curieux du mouvement, aller voir la danse, qu'est-ce qui se passe actuellement. C'est tout un bazar, c'est une grande soupe. Voilà, je crois qu'on fait des soupes le soir. Quand on joue, on fait des grandes soupes.
Mais vous avez ça en commun tous les deux, c'est pas forcément la soupe, je sais pas, mais en tout cas le fait d'aller se frotter à d'autres, quoi, de vouloir y aller, de vouloir rencontrer. Même Serge Tessoli, vous travaillez même avec un peintre, avec Paul Bloas, vous avez voyagé beaucoup avec lui. On a vraiment l'impression de ce désir, vraiment de se. Non pas de se confronter, mais de créer la friction.
Il y a une nécessité, hein, c'est tout. Mais dis donc, c'est nécessité, donc je ne l'explique même pas. Ouais. Voilà, il faut y aller. Comme dit Joël, il y a un moment, on te propose ça, bah t'y vas. Il faut être prêt. C'est pour ça qu'elle dit, il faut être prêt. Mais c'est vrai, il faut être prêt. Il faut être prêt parce que tu as envie d'y aller. Quoi.
Voilà.
Puis on verra bien ce qui se passe.
Parce qu'on apprend tellement.
Dans le pire des cas, c'est une super expérience. Dans le meilleur des cas, c'est le début d'une histoire qui va durer, qui va se développer. Donc, quoi qu'il arrive, c'est bénéfique.
C'est tellement bénéfique. Il y a parfois une suite à l'aventure, puisque donc il y a le premier Trans en 2011, et donc le deuxième, qui est donc sorti il y a quelques mois seulement. Le premier, on l'a compris, c'est issu d'un concert de soutien. Donc, il y avait quelque chose aussi d'un mouvement, ce mouvement-là, cette naissance-là de votre duo, c'est lié à aussi un mouvement de soutien, un mouvement politique au sens large. Et ce Trans 2, il a gardé cet élan-là?
Oui, il me semble, oui, puisque justement on commence, c'est un jeune duo, j'oserais dire une jeune rencontre, on commence à avoir un vocabulaire, puisque dans le deuxième il y a bien trois pièces qui bougent, puisque c'est ouvert, open form on dit en anglais, c'est chic, il y a bien trois, si ce n'est quatre, qui peuvent pas se répéter, mais où les ingrédients sont là. Les ingrédients, ce sont les mêmes hein, que quand on regarde une partoche où on a 10 jours de répétition, c'est pareil, hein, c'est exactement pareil. Il faut pas aussi mettre le composé au-dessus. Moi, ça a été tout mon combat, ça n'est plus à l'âge que j'ai, mais il faut insister, j'insiste tout au moins, il faut, les gens font ce qu'ils veulent, j'insiste sur cette musique, je viens tellement de la musique savante. La musique savante égale savoir. Et la musique orale, c'est rien, quoi. Le jazz, la pop, le rock, c'était de la musique orale. Donc c'est des ploucs, quoi. Parce que les autres, ils sont pas de savoir. Les autres, ils ont du savoir. Ils ont beaucoup de savoir. Les autres, c'est des ploucs. Ça m'a tellement, tellement attiré, cette chose-là. Et j'ai rencontré vraiment les plus grands musiciens. J'oserais pas dire au monde, mais presque. Et qui, justement, ont cette trilogie du musicien, instrumentiste, improvisateur et compositeur. Évidemment que ça vient du jazz. Mais ça vient pas du jazz. Parce que ça vient de ce qu'étaient les siècles passés. Au siècle passé, tous les musiciens étaient instrumentistes. Et le mal, par la suite, si on peut voir ça comme un mal, c'est que beaucoup de musiciens ont arrêté de toucher, je dirais, de pratiquer la musique. C'est extraordinaire. C'est comme si je touchais que carne, non? Comme si, parce que la musique vous passe. Ils n'ont fait que la pensée. Mais quand on voit tous les compositeurs, non les moindres, ils étaient avant tout instrumentistes. Liszt, Chopin, Bach, Beethoven, tous jouaient au moins du piano. Non, je pense même Mozart y jouait. Donc, il s'est passé quelque chose, je suis pas musicologue, mais qui m'a fait réfléchir. Il y a très longtemps, puis j'étais jeune, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Parce que j'ai beaucoup joué musique contemporaine.
Parce que c'était sale de toucher l'instrument?
J'en sais rien, je veux pas semer la guéguerre, mais ça m'a personnellement questionné que certains, avec des pouvoirs évidents, parce que c'était composé, on devenait des sujets où on devait se la fermer, surtout. Les musiciens se la ferment. Ils jouent. D'ailleurs, on les paye pour ça. Une feuille de paye, à la fin du mois. Et ils se taisent. Donc, on a emmuré toute la créativité du musicien. Le musicien créatif. Et on a donné la création à la seule personne qui décide tout, qui sait tout, qui écrit tout, qui connaît tout, qui dirige tout, c'est le compositeur.
Il ne touche rien.
Ben, je sais pas. C'est un gros travail. Je critique même pas les compositeurs, parce que la composition, c'est long. C'est très complexe. C'est très, bon, bref. Et cette chose-là, ça m'a très personnellement, il faut pas que je prenne trop le micro, ça m'a très personnellement attiré et j'ai été vers le jazz. Parce qu'il n'y a pas un seul dans l'histoire de la naissance du jazz. Il faut même partir très loin. New Orleans, ce qu'on veut. Ou après le bob, le bebop, le hard bob, le third dimension, le jazz, le free jazz, tout ça. Où tous les musiciens ont gardé leur instrument. Si on parle de Steve Lacy, on parle de Steve, son sax, on parle de Clinton, ou je sais pas quoi, de Count Basie, de Mingus, de Coleman. Ils sont. Et ça, ça m'a attiré. Ça m'a attiré de cette aventure-là, cette trilogie, j'appelle. Mm-hmm. Et c'est vrai que je suis à 90% plus que dans cette musique dite improvisée, mais qui s'écrit. Puis parfois, comme Serge aussi, je compose, j'ai des commandes, je compose. J'ai arrêté tout classicisme depuis très 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 longtemps. Et même j'ai fait beaucoup de musique contemporaine. J'ai tellement donné peau, ongles, poils, muscles pour eux.
Ouais.
Qu'à un moment, j'ai dit, hey, basta così. J'ai envie d'un peu fouiller si j'avais quelque chose personnellement à dire, à construire. Voilà, c'est tout. Alors, la rencontre avec Serge est magnifique. C'est une vraie aventure. Justement, de par notre différence. Moi, j'apprends beaucoup aussi. Absolument.
Vous apprenez quoi ?
Ben, là, cette différence-là, puisque c'est des musiques que je ne connais pas. L'énergie, je crois que oui. La relation instrumentale, je crois que oui. C'est très semblable. Mais ailleurs, il faut qu'il fasse parfois des... Bien, Serge, arrête-moi si je me trompe. Par exemple, il faut qu'il fasse des concessions, Serge, avec moi, par rapport à la puissance du son. Pour moi, c'est un seul des paramètres de jouer fort. Hein, mais la guitare électrique, elle peut pas, elle peut jouer mezzo forte ou. Mais le rock, l'histoire du rock, toute l'histoire du rock, c'est vraiment quand t'as des 300 potes derrière, des décibels. Ça, c'est une chose, je suis pas contre, mais c'est une chose que j'ai du mal à. Parce que c'est un seul des paramètres, le volume. Il y a tellement de choses dans la musique, n'est-ce pas? Et dans le son. Donc c'est vrai qu'avec moi, je demande à Serge de baisser un peu sa guitare, moi aussi avec mon ampli, pour qu'on arrive à trouver une cohérence, la même...
Commune.
Oui, voilà.
C'est une concession, Serge Tessoguet ? Jouer moins fort ?
Non, mais pas dans le bon sens. C'est des concessions qui sont constructives. Parce qu'on peut avoir tendance à se dire c'est négatif une concession. Non, mais en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire que, aussi bien avec Joël que je pense avec Khaled Al-Jaramani, donc, qui joue du oud. Mm-hmm. Donc, c'est des instruments, déjà, c'est des instruments à cordes comme la guitare. Donc, on a plein de points de commun, de fait. Ce que je modifie d'abord, c'est le grain vraiment de mon instrument. Ben, je passe à travers des pédales comme c'est une guitare électrique. Mm-hmm. Quand je suis tout seul, le son que j'aime bien avoir tout seul est beaucoup plus saturé. Voilà. Chose que je modifie avec eux, un instrument acoustique, déjà j'enlève 50% de saturation. Sinon, les sons se mélangent pas. Mais à un moment, ils doivent se mélanger et je le retrouve là où c'est le plus facile à juger pour moi, c'est dans les harmoniques. Parce qu'il y a des moments, des harmoniques qui se créent, je sais plus, c'est un mélange des deux qui crée autre chose. Et si mon son est trop dissemblable d'un son acoustique, ça se mélange pas. Donc c'est pas complémentaire. Mmh. Voilà. Et après, c'est des détails, tout ça, mais c'est des détails super importants. Parce que du coup, ça crée vraiment une musique de qui aide à la musique du duo. Il y a aussi la réverb aussi. Joël, elle joue sans réverb. Moi, j'ai plutôt tendance à jouer avec beaucoup de réverb ces temps-ci. Même si j'ai passé 10 ans avec, ou 15 ans, ou 20 ans sans jamais de réverb. Mm-hmm. Donc j'étais à l'opposé total. Puis là, j'ai eu, je sais pas quoi, une espèce de maladie qui m'a pris. Donc ça m'a plu. Tout d'un coup, j'ai trouvé la réverb.
Oh,
voilà, c'était génial. Ouais, c'est ça. Et puis ça m'a plu. Okay. J'ai eu du mal à m'en défaire. Puis après, évidemment, quand je travaille avec d'autres musiciens, je me dis, je pense toujours à ça. Comment je peux faire en sorte de mettre l'autre en valeur ? Parce que si je le mets en valeur, lui me mettra en valeur, parce qu'on est vraiment dans un rapport d'échange, d'intimité, de relation, surtout les duos. C'est vraiment très intime comme relation. Donc c'est toute une réflexion que j'ai vite fait, parce que je connais quand même. Je vois très vite comment ça marche ou pas.
France Culture, Supersonic de Thomas Baumgartner.
C'est là, ça va.
Certaines critiques, alors je sais pas si c'est peut-être caricatural, mais on lit sur Trans, justement, sur Trans 2 en particulier, que vous, Serge Tessoguet, vous donnez le socle, certaines nappes, une grosse présence, et il y a Joël Léandre, virevoltante, je cite. Est-ce que c'est une caricature de votre rapport sur ces duos-là?
Non.
Non, je crois pas.
Non, surtout qu'il y a des morceaux où c'est plus Joël qui, pour moi, est vraiment tellurique. Fondation du morceau.
Oui, il n'y a pas d'esprit leader où il y aurait. Mmh. On a déjà deux instruments, la guitare électrique ou, arrête-moi si je me trompe, accompagne, ou rien déjà le terme, accompagne ou ont accompagné ou accompagneront toujours ou s'accompagneront la voix et donc un chanteur ou une chanteuse. Et moi, cette grosse boîte sublime, magnifique, totem, radeau, gros tracteur, caisse à vin, vide, c'est une boîte vide, c'est un tonneau. Mon gros tonneau fait que on a décidé que ce gros tonneau resterait au fond, resterait grave, et surtout accompagnerait. Et moi, j'ai tout déconstruit. J'en ai fait un instrument plein feu, j'allais dire, plein d'emploi, absolument soliste, autant qu'un violon, une flûte, un piano, je ne sais. Donc, on a déjà tous les deux un instrument d'accompagnement. Donc c'est rigolo de ce qu'on, rigolo c'est peut-être pas le terme, mais de ce qu'on essaye, on est en chantier là, ce duo, de proposer. Parce qu'il y a l'image, vous savez, l'imagerie de, si on peut dire, dans ces siècles passés ou quoi, tous ces instruments nobles et non nobles, enfin, il y a tellement de choses à dire qu'on sait, si on veut le savoir, dans des directions de savoir aussi, qui sont au 21e siècle, plus possible. Mais plus possible, comme aussi le fait que ce soit une seule personne qui décide tout, c'est plus possible. Moi, ça va, tout ça, c'est un peu le passé. Donc c'est pareil pour l'instrumental, qui a décidé qu'il y avait des instruments nobles et des instruments non nobles. C'est la monarchie. Donc ça touche de suite après le politique, beaucoup de choses.
Ouais, c'est très politique, ce que vous dites.
Mais complètement. Complètement. Donc de défaire ça, de déconstruire tout ça, c'est un apport, ça m'a donné beaucoup de questions, et je ne sais pas si je vais te répondre, mais de travail. comme un chantier. Et par exemple, ces deux instruments sont des instruments d'accompagnement. Et on en fait, bon, il n'y a pas de leader, tous les deux. On en fait des instruments solistes, quand il y a ces tressages, quand ça se croise, quand ça se crée, quand ça s'écrit, ou se crie.
Il y a quelque chose de l'ordre du désapprentissage.
Pas en ce qui me concerne, parce que j'ai fait le bon choix quand j'étais ado, c'est que j'ai décidé de ne plus apprendre. J'ai tellement mal vécu toute forme d'apprentissage parce que j'étais nul. Donc c'était tout le temps un échec pour moi. Et donc le seul moment où j'étais vraiment tranquille, c'était quand je faisais que ce que je voulais avec mon instrument, c'est-à-dire en gros n'importe quoi au début. Mais j'étais bien, donc je me suis dit, je vais continuer dans cette direction et ce sera toute ma vie, je ferai ça. C'est ce que j'ai fait depuis 30 ans maintenant. Mais du coup, c'est long parce que c'est comme c'est tout à l'oreille, et que je remets tout le temps beaucoup de choses en question, je garde peu d'éléments en fait. Donc du coup, j'ai pas eu à désapprendre ce que j'ai appris parce que j'apprends des choses, mais j'ai un mal fou à les retenir. En plus, je suis effroyablement dyslexique, donc c'est terrible. Je retiens beaucoup, très peu de choses, donc faut que je pratique tout le temps déjà, et c'est un enfer, mais un enfer bien heureux. Mais enfin, c'est vrai, ça me rend heureux en fait. Ça me rend heureux parce que du coup, c'est toujours ce sentiment de pas être enfermé, voilà. Ouais. Et du coup, de pas avoir de... Bien sûr que j'ai une technique, une connaissance de mon instrument, un truc qui est vachement particulier. Je connais plein de gratteux qui me disent « on n'arrive pas à faire ce que tu fais parce qu'on ne le comprend pas ». J'ai bien conscience, c'est parce que je suis autodidacte et que j'ai des doigtés vraiment particuliers qui sont qu'à moi, tout ça, machin. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir mon propre langage. C'est le seul truc qui m'intéresse, finalement. Peu importe si c'est compliqué, je m'en fous, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le son, en fait. C'est le son. Dans l'absolu, c'est ça, en fait. Donc, on s'en fout de la connaissance, même si elle est importante, mais c'est en soi, au bout du compte, c'est pas ça qui m'importe, quoi.
Ouais. Avoir son propre langage, mais qui puisse être adapté dans plein de situations, un maximum de situations.
Il faut, ah oui. Ne serait-ce que par politesse, pour savoir accueillir la personne avec qui on travaille.
Oui. Désapprendre.
Désapprendre.
Ça vous va, vous, Joël Léandre ?
Ben moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai tellement appris que j'ai désappris seul. Par contre, c'est personne qui m'a indiqué le rapport.
Autodidacte dans le désapprentissage.
Absolument, oui. Moi, c'est l'amoncellement de connaissances appliquées, de savoir aussi. Mais toujours cette curiosité, parce que sinon je serais bassiste dans un orchestre depuis fort longtemps, et là même je serais et à la retraite, et une retraite, et ma feuille de paie, je ne sais quoi. Et là, donc à 20 ans j'arrêtais tout, donc j'arrêtais, mais je l'ai traversé. Après on peut polémiquer je le pense ainsi, si on le traverse. Donc j'ai fait toutes les applications, orchestre symphonique, orchestre de chambre, mais la création m'a toujours intéressée, la création, et ma propre création sûrement dedans, mais toujours liée à cet instrument, c'est grave. C'est un sort de transfert, ce bout de bois. Ça m'a questionné et j'aime immensément mon instrument, toujours. Donc, dès que je voyais une basse, pour ça que j'étais vers le jazz, j'ai acheté tout dès que je voyais le bassiste sur la pochette. Donc, mais j'ai désappris seul. C'est seul que j'allais écouter le jazz standard, je dirais, le swing ou quoi. Seul, en buvant même pas une bière, un jus de fruits. Je dis, tiens, bizarre, le bassiste joue avec les doigts, lui, évidemment. Moi, je joue avec l'archer. Mais donc c'est cette sorte de chaos de choses entre la couche traditionnelle et classique, le fait de vivre toujours dans mon siècle. J'ai toujours été, et pas que dans le son et la musique, c'est pour ça que je parle d'autres langages ou d'autres arts, mais c'est un parcours solitaire. C'est personne m'a dit va écouter le jazz, ou mets ta tête dans une partition, ou ben ne va plus, tu dis non, si on t'appelle pour aller remplacer l'orchestre symphonique, parce qu'il y a quand même des grands chefs d'orchestre, j'ai croisé tout ça, et c'est petit à petit que j'ai désappris. Et quand on commence à désapprendre, lentement, c'est un nombre d'années, on devient soi, c'est l'invention de soi, ça s'appelle. Et l'invention de soi, bon, y en a qui se posent pas toutes ces questions-là. Hein. Ils sont heureux. Moi, je sais pas. J'ai aussi toute une vie aussi. J'ai construit ma vie autrement. Sinon, j'aurais fait 3 gosses ou 2. Ou... J'ai donné ma vie à la musique, en gros. Ça, c'est comme ça. Donc, désapprendre, c'est l'inverse un peu de Serge. C'est parce que on m'a beaucoup inculqué, beaucoup appris. Puis c'est des rencontres, surtout. J'avais pas rencontré Cage ou, je sais pas, Braxton ou Sivlessi ou des musiciens ou même de la peinture, parce que j'aime beaucoup la peinture.
Quel peintre?
Toute la peinture contemporaine. J'ai même des folies au mur, voilà. Puis, je suis une enfant du d'Adaïs, Café, Voltaire, Zurich, tous, Picabia.
C'est qui est une belle école de désapprentissage.
Ben absolument. Puis, j'aime beaucoup Satie, il foutait le bazar partout. Il arrivait en vélo, il allait accompagner les chanteurs à Tex, là-bas, à Picabia. Il devait boire quelques bières, puis après, le soir, il avait des rendez-vous dans les salons. Il devait rencontrer Debussy, ou je ne sais. Donc, voilà, je suis une rebelle. On ne peut pas se refaire. Je mourrais rebelle. C'est une vibration en me levant. C'est comme ça.
Oui, mais les vibrations, ça s'est fait pour être partagé sur une scène, parfois, de temps en temps.
Voilà, bah, c'est peut-être ce qu'on entend aussi, on va savoir.
Mm-hmm. Peut-être hein, bien.
Sûrement.
Alors, Trans, c'est, vous avez dit, un chantier ouvert, donc la suite, c'est quoi?
Jouer.
Jouer, peut-être on enregistrera ailleurs, même.
Peut-être, on ne sait pas.
On ne sait pas. C'est déjà pas mal.
Ah, c'est déjà pas mal, oui, je vous confirme.
C'est peu de temps, ça fait quoi, 3 ans, 4 ans qu'on se connaît. C'est bien.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé, Serge Chessoguet, c'est la voix de Joël Léandre, parce que c'est le troisième instrument aussi sur scène. Mmh.
Ça va avec l'idée de la transe, en fait. Mm. Pour moi, c'est cette voix, c'est elle qui fait appel. C'est comme il y a des voix qui appellent comme ça. Et elle appelle la transe, en fait. Et c'est pour ça qu'on a appelé notre duo transe. C'est, je pense que l'élément qui m'y fait penser, c'est la voix de Joël. Ouais. Donc c'est. Je sais pas trop quoi dire de plus parce que. Je ne voudrais pas l'enfermer non plus. Mais bon, voilà, l'élément principal, c'est ça pour moi.
La transe, le lâcher prise.
Bah, c'est-à-dire, moi, la voix, c'est une autre corde. Au lieu de 4, c'est une 5e. Et c'est aussi très, très simple et naturel, la voix. Donc, le fait que je n'ai jamais travaillé, j'ai une voix libre. Donc, je peux dire, chuchoter. Alors, par chance, je ne sais si d'être né sous le soleil dans le sud, en Provence, là-bas, j'ai une voix assez lyrique, me dit-on, mais elle est libre aussi, elle peut être grave, elle peut être. Voilà, il n'y a pas de. C'est vraiment intuitif, et, mais elle peut être aussi très puissante, je parle vraiment de la voix. Et avec Serge dans le duo, c'est plutôt une parole presque, cette voix. Elle est plus pensée comme de dire, dénoncer peut-être, j'en sais pas, et sous forme, oui. Qui appelle la transe, mais plutôt que une chanteuse. Je ne pense pas chanteuse quand arrive cette voix. C'est bizarre. Voilà, c'est tout simple.
Quoi, diseuse alors ou
Oui, conteuse ou pareil, déclarer des choses, souligner quelque chose. Puis il y a le côté aussi un peu destroy chez moi, quand, si je peux dire une bêtise ou une salade composée bêtasse ou dadaïste ou je ne sais, ou répéter trois lettres. C'est un peu aussi la désacralisation aussi, parce que l'artiste et la musique, on a quand même posé en haut de podium, c'est la sacralisation, c'est désacralisé aussi, c'est à cette portée-là aussi. Et c'est naturel chez moi. Je le fais quand, avec d'autres musiciens, dans d'autres groupes, dans plusieurs disques et groupes que j'ai fait, dans mes solos. Il arrive toujours un moment, moi j'appelle ça une pièce, qui va un peu décoincer. Toujours. J'ai ça en moi aussi, ce côté qui glisse comme ça, qui déstabilise aussi. Parce qu'il y a aussi une telle sérieusité dans mon travail.
Dans votre travail ?
Ouais. Dans mon travail, dans mon travail, dans la pensée. Ouais. Je suis très sérieux. Vous savez, à force de gratter les graves, on devient grave. Donc, si on n'était que grave, le grave appelle l'opposé. Donc, c'est, je sais pas, c'est la risée, c'est le sourire, c'est le rire, c'est l'éclat de rire.
C'est se faire un croche-pied à soi-même, alors.
Voilà, absolument. Ouais. Oui, bien sûr. Et j'ai ça, naturellement, sans force. Parce que j'ai tellement vécu beaucoup dans le jazz, hein, et beaucoup avec des hommes. Hein, on est très peu sur les routes, on va pas. C'est un sujet dont on parle pas, mais enfin, je vais dire trois mots et demi. Et il y a un côté très masculin, magnifique, instrumental. Jazz est aussi une musique instrumentale. Où les gars se prennent tellement au sérieux, mais que ça rigole pas. Mais ça rigole pas. Alors, je sais pas si c'est les muscles. Je te sors un couru. L'autre, il arrive avec son sac. Le drum, il s'en fout. Il t'en fout des kilos dans la tête. Que du coup, de faire un peu une sorte de virgule ou de faire un pouet, pour pas dire autre chose. Et ça, c'est peut-être féminin. Les filles, sur les roues, dans les groupes, je vois avec les Diaboliques et Maggie Nichols, et pas parce qu'elle est que chanteuse, d'autres instrumentistes aussi, ont cette peut-être, alors on peut pas généraliser comme on dit tout le temps, mais cette distance un peu de soi-même. Et les gars l'ont pas. Il y a une sérieusité, mais qui est presque étouffante. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de muscles, souvent, qu'il y a sûrement entre les gars des pouvoirs, donc ils ont la gentillesse ou la coquetterie de ne pas parler, mais il y a des pouvoirs sur le plateau. Dans le jazz, c'est évident. Ils se cassent la gueule même, backstage.
Ah ouais.
Ah ouais. Parce que d'un coup, t'as le trompettiste ou le drum qui a pris un chorus tellement long. Tu dis, hey gars, hey, t'es là sur le plateau, t'as l'autre qui va. Tu dis, hey gars, je peux partir, prendre le train, revenir si tu veux. Et il y a quand même. Mais je parle dans l'histoire du jazz. Il y a beaucoup de muscles, il y a beaucoup de gars entre eux. Il y a beaucoup de compètes. On n'a pas de compètes. Les nanas, on n'a pas de compètes. Compétition, c'est compétition pour la radio.
Oui, c'est pareil. Hein. Parce que j'ai connu tout la aussi. Chanson, la chanson rock, c'est pareil.
Ouais. Ah, c'est pareil.
C'est un milieu extrêmement macho aussi. Bah, oui. C'est terrible.
Voilà. Bah, ouais.
C'est vrai qu'on rigole mieux avec les filles.
J'ai pas osé dire le mot, mais oui.
Non, mais c'est très bien. Vrai. Sûr. C'est affreux. Ouais. Du coup, c'est moins libre. Tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment, l'essence aussi de cette musique, l'improvisation, cette recherche de liberté.
Voilà. Il n'y a pas de sujet.
C'est difficile avec les mecs, des fois. Parce qu'il y a ce rapport de pouvoir qui est tout le temps omniprésent.
T'es d'accord?
Mais oui, bien sûr. Les garçons, depuis qu'on est gamin, c'est culturel. On nous apprend à dominer les autres, à être plus fort que ton voisin. C'est toi qui vas marquer le but. Enfin, tu vois, on connaît tous ça. Et c'est vrai qu'avec les filles, moi, j'ai pas ce type de rapport, et tant mieux, ça me fait des vacances. Parce que c'est fatigant, c'est chiant et c'est inintéressant.
Ça empêche de s'intéresser à autre chose.
Aussi.
Ouais.
C'est moins libre. Je trouve que il y a même une forme de lâcheté si tu réfléchis un peu plus loin, de la part des mecs, parce que c'est juste mettre en avant le fait d'être le plus fort, d'avoir les muscles plus gros que les tiens. C'est quand même débile. Mais c'est pourtant ce que font la plupart des mecs.
Ouais. Ça arrive sur le plateau, hein. Assez constamment. Ouais. Moi, je l'ai vécu parce que je joue en partie à 90.
Et c'est un truc récurrent, et dans la musique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est hyper macho.
Évidemment.
Et vous disiez tout à l'heure, Joël Léandre, dans l'impro, en tout cas dans votre exercice, dans cet exercice tel que vous le faites, par exemple à travers Trans, il n'y a pas de genre. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure.
Dessus, bah, parce qu'il n'y a ni homme ni femme. Ouais. Le son, il n'y a ni homme ni femme. Quand on écoute un son, il n'est pas féminin ou masculin. Il est virgule, point, c'est tout. Oui, bien sûr. C'est la musique qui est devant nous. Et on la suit, comme disait Steve Lacy. Et c'est elle qui nous détermine. Ce n'est pas nous qui déterminons quoi que ce soit. En tant que musicien, c'est la musique qui nous détermine. Et qui peut être, à longueur d'années, et puis après d'une vie passée autour des sons, de cette aventure personnelle, chacun là, touche une esthétique, effectivement. Mais c'est pas à soi de dire, ah ben non, là, je vais jouer comme ça pour. Non, c'est cette sorte de tressage de la vie, de ce qu'est la vie. Hein, mais c'est pas que pour un musicien, c'est aussi la vraie vie, au sens. C'est la dernière musique, je crois, qui reste la plus humaine. Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de drive, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de. Voilà. Et c'est extraordinaire. En gros, c'est la pure poésie aussi. Et puis, je le dis dans mes documents, c'est savoir ne pas savoir.
C'est du boulot. Accepter de ne pas savoir.
Voilà. Savoir ne pas savoir. Donc, c'est une remise en question continuellement. Puis, c'est neuf. Là, on est neuf. Tout neuf. Comme un bébé. Bah, il arrive, il est tout neuf. On est tout neuf. Chaque fois, on arrive sur le plateau, on est comme des gamins. On est tout neuf, tout nouveau. Tu vois, c'est une vraie aventure, quoi. On est, voilà. C'est garder ce sourire, quoi.
Suivre la musique. En tout cas, je peux vous dire qu'on a un grand plaisir à vous suivre en train de suivre la musique à travers Trans, et en particulier ce disque Trans 2 qui est paru sur le label Intervalle Triton. C'est votre label, Serge Tessoguet. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Joël Léandre. Merci, Serge Tessoguet. Et donc, à suivre Trans.
Merci bien.
C'est ainsi que se termine notre visite chez Joël Léandre, aux côtés de Serge Tessoguet. Si vous voulez les retrouver, quelques dates. Joël Léandre sera le 27 février, dans une semaine, donc en concert, en duo, avec la chanteuse Lorraine Newton à Besançon, au Frac Franche-Comté. Le 17 mars, elle sera à l'Atelier du Plateau, Paris 19e, en trio avec Régis Hubi au violon et Guylaine Cosseron à la voix. Et un grand concert à Besançon, elle est en résidence en ce moment à Besançon, Joël Léandre. Ce sera le 22 mars et ce sera un hommage à John Cage. Et pour Serge Tessoguet, le 23 février, donc ce mardi, il est avec sa formation Interzone, donc l'oudiste Khaled Al-Jarahmani, au Temps Machine à Tours. Et le lendemain, donc ce mercredi, il est avec Zone Libre, Cyril Bilbo à la batterie, en ciné-concert sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde à la boîte à musique. C'est à Metz. Et on met évidemment tous les détails sur franceculture.fr où on trouve aussi le podcast, les commentaires et la réécoute de l'émission, la réécoute définitive et sans limite de temps désormais. Supersonic est préparé et coordonné par Inès De Bruyne, réalisé par Véronique Lamandour. La prise de son était de Yann Fressy et le mixage d'Alain Joubert. Dans un instant, vous retrouvez les nuits de France Culture. Portez-vous bien et à samedi prochain.